Bonsoir à tous. Donc mon prénom est Gilles. Je croyais avoir un public pontois, donc j'ai fait un peu une historique du canal, plutôt du barrage surtout, du point de vue pontois. Maintenant je vois qu'il y a beaucoup d'étrangers. En deux mots, je vais vous raconter un article qui a paru en 2006 dans les Cahiers du Peuil et qui a été réalisé par Alain Blaise. Simplement, j'ai quelques éléments supplémentaires pour avoir étudié les moulins de pont cet hiver, avoir fait une conférence et puis un tour guidé. En fait, quand on fait le bilan de cet historique, on pourrait dire que c'est une question de la bataille de l'eau, la bataille des usages de l'eau. Et c'est frappant parce que en 1810, le ministre de Napoléon, à cette époque, nous dit que l'immense plaine de Valence est peu productive. On craindrait de profonds changements avec de l'irrigation. Et donc, il faut aller chercher les eaux de l'Isère et de la Lyonne. L'ingénieur réagit en disant « Seules les eaux de la Bourne sont excellentes et abondantes pour les arrosages. L'Isère n'a pas assez d'éléments fertiles, etc. » Et puis, un an plus tard, le mémoire d'études arrive et l'inspecteur qui a fait cette étude nous dit « Bien sûr, cette rivière porte les radeaux depuis le pont en Royan jusqu'au confluent de l'Isère. » Donc, comme vous le savez, on faisait descendre tous les arbres, on faisait des radeaux à partir d'ici, en dessous du Breuil, il y avait de grands dépôts, et on descendait jusqu'à Marseille, si on voulait. Et ça donne un moyen pour les transports de bois de la montagne. S'en emparer, donc empêcher cette activité, c'est enlever aux habitants de ce pays la seule branche de commerce qu'ils possèdent. Mais après, il rajoute un commentaire en disant « Mais de toute façon, maintenant, avec ce que l'empereur Napoléon a décidé, les bois ne sont plus exploitables, et donc de toute façon, cette activité est morte. » Alors, il faut savoir qu'il y avait à ce moment-là déjà 300 ouvriers qui travaillaient la laine dans le couvent, dans ce qui est maintenant le musée de l'eau. Donc, il y avait d'autres activités, manifestement, mais c'était quand même encore une activité importante. Et justement, on la trouve dans le livre de Chaussamy qu'on a évoqué en début de réunion. Alors je vous passe des nouvelles études. Quelqu'un a prévu un projet d'irrigation des plaines d'Auberive, de Saint-Just et de Saint-Romain en prenant l'eau à partir de Choranche. Donc voilà aussi un projet qui ne s'est pas fait. Et puis il y a une des grosses sécheresses en 1857 et 1858. C'est peut-être pas le changement climatique, mais toujours est-il qu'il y a eu des grosses sécheresses. Et donc on a dit il faut absolument faire un projet. Et un monsieur Cellier se présente en faisant une demande pour obtenir la concession du barrage et du canal. Et ce monsieur Cellier, en fait, il irrigue déjà des plaines du côté d'Aix-en-Provence. Il a déjà une société, il connaît tout à fait ce qu'il faut faire. Et donc sa demande va provoquer la réalisation d'un projet. Donc il y a un premier projet qui est présenté en 1860 et finalement en 1866 arrive un second projet. Alors, le premier projet est pour 22 000 hectares, et retenez ces chiffres d'hectares parce que c'est assez cocasse aussi, et va se faire en aval de pont. Et le nouveau, en 1866, qui est proposé, se fera en amont. Dans le fond, il y a un très petit barrage dans l'eau, à peu près démoli, qui servait à détourner les eaux de la Bourne pour alimenter le moulin, le fameux moulin Boissieux, qui était à cette époque-là le moulin du Seigneur, ou peut-être le moulin de Valois. Et il y a même quelques lignes qui dessinent la roue de moulin qui était là-bas dans la rivière. Donc en 1866, on présente un projet. Il est mis à l'enquête publique, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Les habitants de Pont unanimes et sous la direction de leur maire, M. Thésier, font une protestation. Et on y lit notamment ceci. Il suffit de traverser la ville d'une extrémité à l'autre. La rue principale n'a pas une maison fermée. Chacune d'elles contient une boutique, une industrie. À première vue, on est étonné. La première question qu'on se fait, c'est de se demander quelle en est la cause. Mais cet étonnement disparaît bien vite quand, en visitant Pont-en-Royans ses environs, on trouve les deux rivières de Bourne et de Vernaison, dont les eaux bienfaisantes alimentent les usines et apportent constamment la fortune à ses habitants. Supprimé à Pont-en-Royans, bâti sur un rocher n'ayant absolument aucun territoire, et ne pouvant évidemment pas demander des ressources à l'agriculture, c'est lui ôter la vie. En effet, il ne restera plus, etc. Bon, donc, vous voyez un peu le ton. Et effectivement, en lisant les moulins, moi j'ai vu, c'est que entre 1850, où il y a eu une énorme crue qui a emporté toutes les roues de moulins, et 1860, il y a 4 ou 5 nouveaux projets de moulins. Et donc, il y avait une très grosse rénovation et un investissement industriel. Et donc, ce projet-ci a l'air de négliger totalement ce qui est l'activité de Pont-en-Royans. Okay. Alors, on va passer à la carte. Voici une carte avec deux tracés du canal de la Bourne. Le premier canal est en rouge et en réalité, il correspond plus ou moins à ce que nous avons aujourd'hui. Mais si vous regardez, donc, vous avez Saint-Nazaire à droite, Auberive à peu près au milieu. Et après, il y a des pointillés. Je suppose que c'est une prévision pour des tunnels. Et on arrive à la rivière Rognon, c'est-à-dire au cimetière de Pont-en-Royans. Et c'est là, juste après, on a prévu le barrage. Il est écrit en imprimé, le barrage, donc à peu près chez FH, là, on dirait, ou à l'hôtel du Beau-Rivage. Et tandis que Pont est représenté comme une petite maison, là, plus loin. En réalité, on veut barrer les eaux. À la sortie de Pont, et donc on va noyer effectivement tout Pont-en-Royans, et c'est bien ce qui est dit dans la pétition. Et puis quelqu'un vient en 1866, donc 6 ans plus tard, avec un nouveau projet, et en disant c'est pas sérieux, c'est pas assez, il y a moyen de faire 33 000 hectares irrigués dans la plaine de Valence, et donc en fait on va prendre les eaux en amont de Pont-en-Royans, juste après le pont Rouillard. Ce qui permet d'avoir 30 mètres de plus de chute, surélevé le barrage de 30 mètres. Donc je voyais une muraille. Eh bien non, c'est simplement, comme on est en amont, on a toutes les chutes du pont Picard, et donc on a davantage de chutes pour faire circuler l'eau. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'après, il va passer du côté de Villeneuve pour parler chez nous, puis prendre la route de Sainte-Eulalie. Mais en fait, c'est l'ancienne route de Sainte-Eulalie, la nouvelle route qui va maintenant n'y est pas. Donc, c'est la route du Merle, la ruelle du Merle. Et en fait, il est écrit dans le projet qu'on va passer sous les maisons. On va arriver à la Vernaison derrière une fabrique. Et en fait, on va prendre toutes les eaux de la Vernaison. Alors, c'est pas grave, parce qu'il n'y a là que trois usines. Il y a les Foulons, c'est-à-dire la future tournerie Maillet, mais qui n'est pas encore mise en service. Et il y a un autre moulin, et sans doute encore, oui, et une autre usine Odier de traitement des laines, également quasiment au confluent de la Bourne et la Bourne. Donc vous voyez, et puis ce projet de Sainte-Eulalie, à la limite, il prend à peu près le chemin du tram, et ensuite il va à Saint-Thomas, il va chercher la Lyonne et le Cholet en amont de Saint-Thomas, et puis il arrive sur le côté de Saint-Nazaire, donc tout à fait de l'autre côté qu'aujourd'hui. On lui trouve encore de l'eau qui vient de Saint-Just, et puis Saint-Just va passer sous la Bourne, on voit qu'il y a un siphon, et puis voilà le projet de 60. C'est ce projet qui a fait venir Pont-en-Royans. Voilà. En deux mots, la commission qui est réunie pour l'Isère dit absolument non, ça ne va rien nous rapporter, et donc nous trouvons que ce projet est tout à fait défavorable, surtout qu'on parle de 7 mètres cubes pour la Bourne, on n'en laisserait que 1 mètre cube pour Pont-en-Royans et on en retirerait 6 mètres cubes dans le canal. L'ingénieur dit pas du tout, vous avez très mal calculé, il y a 12 mètres de débit, 12 mètres cubes secondes de débit, et 1 mètre cube suffit largement puisque à fur et à rive, ils ont moins que ça. Donc ils ont aussi des usines, il n'y a pas de problème. Le ministre conclut malgré tout que le barrage se fera en aval de Pont-en-Royans, vu l'opposition de Châtelut, de Pont et même d'Auberie. On est en 1866, ça traîne un peu, arrive le phylloxéra. Donc c'est la catastrophe. La seule manière d'éviter le phylloxéra, c'est d'inonder les vignes. De l'eau, s'il vous plaît. On sait que ça n'a pas marché, mais voilà. Et puis, donc on va revenir au projet de 66, on crée une société, on s'aperçoit que cette société doit recevoir des subventions de l'État, mais que par ailleurs, les élus de la société sont tous des députés, de sorte qu'on ne peut pas faire ça. C'est du point de vue éthique, au XIXe siècle, on ne peut pas avoir un député qui se subventionne lui-même, semble-t-il. Donc on refait des élections, c'est de nouveau les députés qui sont élus. Donc on va faire plutôt que c'est une société d'État, on va la faire gérer par des fonctionnaires, déclaration d'utilité publique, travaux, on inaugure en 79. Je vous ai commencé l'histoire en 1810, 70 ans, 69 ans pour arriver à l'inauguration. Alors j'avais toujours cru que c'était le président de la République qui était venu inaugurer. Eh bien pas du tout, c'est le ministre des Travaux publics et de l'Agriculture qui a inauguré avec son sous-secrétaire d'État, un certain Sadi Carnot, qui est en fait devenu président de la République plus tard. Voilà pourquoi, d'où vient la confusion. Il y a encore eu des autres éléments. Quand on a construit l'aqueduc de Saint-Nazaire, le curé de Saint-Nazaire a protesté parce qu'on travaillait même le dimanche.